pour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer, qui sont arrivés, je pense notamment au cercle des Victoriens terriens, dont je vois quelques dignes représentants. Nous devions être avec eux mardi soir. Alors, oui, il m'a donné la fessée déjà, Robert. Mais alors, on est dans une situation, on a essayé de faire une opération immobilière dans notre vie, c'est pas ça. Et ça tombe justement ces jours-ci, donc, ce qui a mis tout un désordre à notre planning. On préfère être dans la famille de Dieu que n'importe où ailleurs. Cet après-midi, on a parlé hier soir du couple, on a parlé de la fréquentation, de la préparation à ce moment de mariage pour les célibataires. Si vous êtes en célibataire, que vous avez raté l'épisode, allez sur le site de l'église, apparemment ça va y être. Cet après-midi, j'aimerais qu'on parle de l'autre partie, parce qu'il y a des parents, il y a le couple, il y a des jeunes qui se préparent au mariage, mais il y a aussi, après le mariage, le Seigneur bénit souvent le foyer d'enfants. L'enfant, le petit enfant, l'adolescent, il grandit. L'adolescent, c'est pas la même chose. Mais traitons le sujet dans sa globalité en parlant de ce que Dieu appelle l'éducation, la discipline, le châtiment. Hébreux chapitre 12 déjà. Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, versets 3 à 11, nous avons l'enseignement global de Dieu sur la question de l'éducation et des enfants et des adultes dans la famille de Dieu. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point la décourager. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe la verge, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Quand la Bible parle ici de châtiment, nous on pense châtiment, c'est la fessée. Aujourd'hui, il y a une législation en cours pour interdire la fessée. Je suis persuadé que dans notre société, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la fessée qui est un problème. Le problème, c'est la violence. J'ai déjà parlé avec un père qui m'a dit, mais moi, j'attends pour être en colère, parce que si je me suis en colère, ça ne vaut même pas la peine de frapper mon enfant. Si je n'ai pas de colère en moi, je ne vais pas du tout le discipliner. Il faut que vraiment que je sois remonté, il faut qu'il ait fait plusieurs bêtises, et là, quand ça tombe, ça tombe. Ça s'appelle la violence. Le père n'est pas intéressé par l'éducation de son enfant, il est intéressé à évacuer sa colère en tapant. Ce n'est pas du tout comment Dieu le voit. Quand Dieu parle de châtiment, il parle d'une éducation. C'est une éducation pour former notre caractère. Et d'ores et déjà, on veut poser le fondement. Les parents ont parfois besoin de châtier leurs enfants. Parfois les discipliner, et je ne crains pas de le dire, parfois administrer une correction corporelle. mais il ne faut que ce soit jamais sous le coup de la colère. Quand un parent doit faire cela, et c'est pénible, ça doit lui coûter quelque chose de le faire. Il faut que l'enfant ressente, à travers la démarche, que son parent l'aime réellement. Et qu'on ne le fait qu'à contre-cœur. Et qu'on le fait de manière modérée, parfaitement maîtrisée. Et qu'on montre à l'enfant qu'on l'aime réellement. Et qu'on lui explique le pourquoi du comment. Là, on instruit. Là, on éduque. Là, on forme le caractère. Sinon, c'est simplement, tu es là, tu es plus petit que moi, je suis plus grand que toi, tu m'as mis en colère, je te colle. Et là, bien sûr, ce n'est pas du tout une éducation. L'enfant subit des violences. Rapidement, regardez ce passage-là. Si on veut vraiment des conseils de Dieu sur le châtiment des enfants, sur la correction, sur la discipline, sur l'éducation, c'est ici que tout est résumé. Dans le verset 3 et 4, vous avez remarqué, Dieu se soucie de notre caractère. Il craint que notre caractère ne soit pas assez solide pour résister aux mauvaises influences autour de nous et pour persévérer dans l'obéissance à Dieu. Et il dit, c'est pour ça que je vous donne le châtiment, parce que je veux fortifier votre caractère, vous en aurez besoin quand vous serez face aux tentations. Le châtiment du Seigneur est la preuve même que nous sommes ses enfants. Et ainsi pour la famille, on ne châtie pas les enfants du voisin. On s'occupe de nos enfants, c'est notre responsabilité. Et que le châtiment n'est pas en soi négatif. C'est quelque chose, c'est une force positive dans notre vie, surtout si elle est bien faite. Dans le verset 7, l'auteur explique que quand le Seigneur trouve bon de nous châtier, nous devons nous y soumettre sans nous plaindre, en sachant que c'est nécessaire pour notre développement. Comment réagissons-nous quand le Seigneur permet des difficultés dans notre vie? Ouais, je crois, c'est Dieu, en me convertissant, je pensais que tout irait bien, je vois que j'ai un institut sur la tête, où est ce Dieu qui est tout-puissant, soi-disant, pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Il s'occupe de vous, c'est ça le problème. Ces problèmes viennent de sa main, il est fermé. Dieu dit, ne te plains pas. Quand je grandissais, mes parents ne permettaient pas qu'on se plaigne. Vous dites, mais alors on ne peut pas interdire la plainte? Si, on peut interdire la plainte. Nos parents nous ont bien fait comprendre, si vous vous plaignez, on vous donnera des raisons de vous plaindre. Si vous pleurez sans cause, on vous donnera une raison de pleurer. Il y en a d'autres, je crois, qui ont été élevés comme ça. On n'était pas, on ne permettait pas de nous plaindre. Et du coup, on n'a jamais pris l'habitude de nous plaindre. Et aujourd'hui, adulte, qu'est-ce qu'on est content d'avoir eu cette éducation-là? Au contraire, on était obligé d'être reconnaissant. Vous dites, on ne peut pas obliger les gens d'être reconnaissants. Si, en leur posant la question tous les jours, de quoi tu es reconnaissant? Tu es pauvre, brûlant. Trouve-moi trois raisons que tu es reconnaissant. Vous dites, ben ça c'est un peu artificiel. Non, ça c'est amorcer la pompe. Une fois qu'on commence à devenir reconnaissant, on trouve des sujets de reconnaissance partout. Et alors, quand on est adulte, dans la pire des circonstances, on est encore reconnaissant. Comme dit ce vieux prédicateur américain, il arrive à peine dans le pupitre. Il dit, je suis content d'être parmi vous ce matin. Pas qu'à mon âge, je suis content d'être n'importe où. Un autre a dit, je suis du bon côté de la terre, hein, parce qu'on peut être à 2 mètres en dessous. Il y a toujours un sujet de reconnaissance. Nos pères nous châtient, dit le verset 9, mais parfois ils commettaient des erreurs. Et quel parent peut dire aujourd'hui à ses grands enfants, je n'ai jamais commis d'erreur vis-à-vis de vous, votre éducation, je l'ai parfaitement assumée, non? On est obligé de dire à ses grands enfants, j'ai commis des erreurs, je ne savais pas, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pu être injuste, j'ai pu ne pas vous discipliner correctement. On peut souvent leur dire, parce que l'enfant va dire, ouais, un jour tu m'as donné la fessée, je ne la méritais même pas. toujours le répliquer, il y a 100 fois que tu l'as mérité, que tu ne l'as pas reçu. Mais Dieu dit, non, nos pères le châtient comme ils le trouvaient bon, selon ceux qui pensaient que c'était la mieux chose, mais le Seigneur dit, même s'ils ont fait des erreurs, le châtiment qu'ils vous ont donné, c'était bien mieux de ne pas en avoir du tout. Et, par contre, Dieu, il est parfait. C'est toujours bien dosé, ce n'est jamais de trop, c'est juste bien, il ne commet pas d'erreur dans son éducation. Ce qui fait que tout ce qui vient dans notre vie, nous devons l'accepter comme étant de la main de Dieu et dans un but de nous former. Et si nous voyons nos circonstances comme cela, on sera reconnaissant au sein de toutes les circonstances, quelles qu'elles soient. Verset 9. Le verset 10 nous enseigne par rapport au châtiment, par rapport à l'éducation. Nos parents nous ont châtiés et nous ont éduqués pour nous faire réussir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour mener une vie réussie. Je ne peux pas imaginer un parent qui dit « Je n'ai pas réussi ma vie et j'espère que mes enfants vont rater leur vie comme j'ai raté la mienne. Je ne veux pas qu'ils montent plus que moi, je ne veux pas qu'ils aient plus de réussite que moi. » Non. Même le parent qui a trimé, qui dit « J'ai raté ma vie », dit « Mais je veux que mes enfants réussissent la leur. » Et quand on pense à son enfant, et quand on le voit se livrer à de mauvaises habitudes ou à de mauvaises fréquentations, on se pose la question, si mon enfant continue dans cette voie, est-ce qu'il va rater sa vie ou est-ce qu'il va la réussir? Il va la rater. Alors à moi d'intervenir pour l'aider à ne pas continuer, pour qu'il ne rate pas sa vie, mais qu'il la réussisse. Et l'auteur dit ici, c'est le but de tous les parents, en les disciplinant pour leurs enfants, qu'ils réussissent leur vie. Il dit, mais figurez-vous que Dieu, il veut vous faire réussir votre vie éternelle. C'est triste quand un enfant de Dieu arrive dans le ciel et Dieu met au feu de son évaluation leurs œuvres et que tout est brûlé. Il est sauvé, mais comme au travers du feu, ça c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous donner des récompenses et des couronnes. Il veut qu'on bâtisse avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et pour ça, il faut être obéissant. Et pour être obéissant, parfois, il faut du châtiment, il faut de la discipline, il faut de l'éducation. Et le Seigneur ne ménage pas ses efforts. Le Seigneur ne nous demande pas, heureusement, d'aimer le châtiment. Je n'imagine même pas un enfant de 10 ans, son papa dit, je vais donner la correction, tu vas dans ta chambre. Oh, chouette, il est gardé. Oh oui, il va sortir le martinet. Ça va être un moment merveilleux. Il est masochiste pour faire quand même. Dieu ne vous demande pas d'aimer le châtiment. Il nous demande de l'accepter. C'est pas la même chose. De l'accepter à cause de ses effets sur notre caractère. J'aime pas trop, mais je reconnais que c'est nécessaire. Et à cause de ce châtiment, à cause de cette circonstance, je pourrais être un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur enfant de Dieu. C'est moi qui vais gagner. Et puis, dans le verset 12 et 13, on se rend compte que ce n'est pas toujours la fessée que Dieu administre, c'est parfois la kinésithérapie. Il parle de mains asthéniques, fatiguées, lassées, on n'a plus de force, le genou qui flagelle, qui ne nous porte pas bien. Qu'est-ce qu'il fait le kinésithérapeute? Est-ce qu'il dit, reposez-vous dans votre fauteuil? Non, il dit, allez, lève-toi, ça va faire mal, mais il faut que tu y ailles. Oh, je n'ai pas envie, je vais être opéré. Mais oui, mais tu vas marcher comme allez, un petit bout dans le couloir, hein, dans les maisons de rééducation. Alors, hé, ça fait mal, allez, continuez, mais vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de compassion. Vous êtes bien, vous, le kinésithérapeute, mais moi, c'est moi qui suis malade, je suis payé pour vous faire souffrir. Il ne va pas me le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça. À mesure que vous rééduquez votre genou, les ligaments, les tendons, tout va reprendre place et vous allez pouvoir sauter en sortant d'ici. Le but, c'est que vous alliez bien. Mais il faut de la kinésithérapie. Et donc, parfois, le Seigneur nous administre tel ou tel châtiment. Il dit, maintenant, lève-toi et continue. Ma mère avait la parole. Parfois, quand on avait, je me souviens, entre 5 et 7 ans, j'avais un frère de 1 an de moins que moi et un autre 2 ans de moins que moi, on faisait le trio. trio infernal quelquefois. On trouvait toujours une nouvelle bêtise. Chaque jour pendant 3 ans, je me souviens, on recevait les fessiers à peu près une fois par jour pendant 3 ans. Ça, je me souviens bien. Toujours au même endroit, toujours les 3 loustiques alignés devant la maman. Un jour, elle a dit, presque des larmes aux yeux, « Je suis fatigué de vous donner la fessée, nous. » Mais alors, une fois qu'on avait la fessée, que c'était tous les 3 en train de se frotter la rigueur, elle disait, « Bon, on n'allait pas rester ici, avoir de mauvaises pensées contre moi. Allez, habillez-vous et sortez, jouez dehors. » Elle nous sortait de là, parce qu'on aurait bien passé une demi-heure à pleurer, à pleurnicher, vous savez, et puis à mal parler contre maman. Non, allez, dehors, c'est fini, on n'en parle plus. Et ce qui était super, c'est que chaque fois qu'on avait la fessée, une fois que c'était fini, à vous embrasser, je vous aime, et c'est pour votre bien, et allez jouer dehors, on n'en parle plus, c'est réglé. Dans la famille de ma femme, c'était un peu différent. Si on recevait une fessée ou si on recevait une correction, la maman la sortissait de 48 heures sans vous adresser la parole. C'est un peu une espèce de purgatoire évangélique. C'est pas bien. C'est quand on discipline, il faut qu'il y ait une fin et qu'on ne revienne plus jamais là-dessus. Comme Jésus le fait. Alors, le discipline et le châtiment, comment on fait dans la pratique? Vous avez un enfant. Alors, on avait un couple qui a travaillé avec nous, des jeunes missionnaires, et on a eu des bébés en même temps. Nous, on a notre deuxième fille et eux, leur premier garçon. Alors, notre deuxième fille, avait un caractère, déjà à quelques mois, on voyait poindre ce caractère. Et alors, je donnais la fessée, vous dites, oh, quelle horreur, vous donnez la fessée à un petit qui ne peut même pas parler. Un enfant n'a pas besoin de savoir parler pour montrer qu'il est rebelle. Même un bébé nouveau-né, on entend les cris, on entend la manière de pleurer. Vous connaissez un peu les pleurs des enfants? Quand on a faim, c'est ouais, on sent la faim qui perce. Ouais, c'est tellement pitoyable. Quand la couche est sale et qu'on ne la change pas, c'est ouais. Et quand le bébé est enragé, c'est ouais. On distingue rapidement. Les enfants, ils naissent avec toutes les émotions à fleur de peau. Ils sont parfaitement formés de ce point de vue-là. Eux, ils ont dit, tant que l'enfant ne sait pas parler avant 1 an, ils estimaient qu'il n'avait pas d'émotion, ou du moins qu'il ne faisait rien de mal. Le lendemain de son premier anniversaire, ils n'ont pas averti le petit. Quand tu auras 1 an, si tu fais le fou, si tu cries, si tu es en colère, tu auras la fessée. Il fallait voir ce gamin la première fois qu'il a eu la fessée à 1 an et 1 jour. Mais il ne s'attendait à rien, il n'avait jamais eu la fessée avant. Depuis toute une année de vie, il n'en avait jamais eu aucune. Et il a fait ce qu'il faisait habituellement, il n'a jamais eu aucune retombée. Il fallait voir son visage. Il avait mal, mais surtout il était surpris. Il regardait ses parents. Ouais. Imaginez. Mais pour un enfant de 0 à 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il montre de la colère, parce que c'est la seule chose vraiment, s'il est en colère parce que sa couche n'a pas été changée depuis 12 heures, c'est vous qui devrez recevoir la fessée. Hein? Mais, et d'ailleurs, il faut toujours vérifier. Est-ce que la couche est propre? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a renvoyé? C'est très important pour l'hygiène d'un enfant de 0 à 1 an. Eh bien, sinon, malgré tout, les avertissements et un enfant, il ne peut pas parler, mais il comprend tout. Hein? Ça nous fait des gros yeux, dit. Arrête de pleurer. Alors, peut-être qu'il ne comprend pas tout de suite vos mots, mais il voit ce que ça veut dire. Et s'il continue, qu'est-ce qu'on peut faire? Les l'arrêter dans une autre pièce. Une petite tape avec les doigts, 2 doigts, sur les hauts des cuisses. Il y en a qui tape sur la couche. Poum, poum. L'enfant dit, c'est mignon, c'est ça, ça. Il ne sent rien, le pauvre. C'est bien comme ça. Mais sur les petites cuisses, ça fait mal. Juste assez pour lui faire une petite douleur. Et là, il comprend. quand je mets en rage et que je crie de cette manière-là, j'ai toujours comme une petite douleur sur la cuisse. C'est curieux. Peu à peu et rapidement même, il apprend à se contrôler. Mais on ne peut pas dire à l'enfant de 6 mois, si tu te mets en rage, demain après le culte, tu auras la fessée. Parce que pour lui, le temps, une heure, c'est comme 3 ans pour lui. Il n'a aucune notion du temps. Et donc, si la punition ne vient pas tout de suite, il ne sait pas pourquoi vous le... C'est vrai. Si je pleure le samedi, dimanche après-midi, j'ai une douleur sur la cuisse. C'est bizarre ça. Il ne va pas dire, j'ai eu la douleur parce que j'ai pleuré le jour avant. Non, la punition, quelle qu'elle soit, doit venir immédiatement pour qu'il comprenne le lien de cause à effet. Pour un enfant de 4 à 12 ans, oui, sans doute on aura besoin de discipline corporelle. Mais on a vu, moi j'ai vu pas mal de parents. L'enfant est à table et il renverse son verre de lait. Parce que c'était trop près de la table, du bout de la table. Mais papa ou maman ne lui ont jamais dit de ne pas mettre son verre au bord de la table. Personne ne lui en a jamais parlé. Alors il est toujours là, il a toujours mis là, et puis un coup de coude, et puis ça tombe. Et puis maman et papa, ils sont très énervés parce qu'il faut se lever, il faut tout nettoyer, on a des invités, on est fatigué, c'est la fin de la journée, on n'a pas envie de faire ça, et bam, bim, boum, voilà, mais voilà, tu l'as mérité, tu as renversé ton verre de lait. C'est pas une raison de donner une fessée à un enfant. C'est un accident. On entre, la pièce est remplie de jouets. Qu'est-ce que c'est que ce gamin? Pourquoi il laisse? Oui, mais on ne lui a jamais expliqué qu'il fallait ramasser les... Donc, la seule raison de donner une fessée à un enfant, c'est parce qu'il a désobéi à une règle qu'on lui a donnée. Nettoyons le lait. Sans lui faire de reproche. Et dis-lui après, maintenant tu as vu que c'est tombé parce que c'était près du bord de la table. Et mets ton verre devant ton assiette. Comme ça, tu ne vas pas le renverser avec ton coude. Mais si tu le mets sur le bord de la table et que tu le renverses, tu auras une fessée. Il n'aura pas la fessée parce qu'il a renversé le lait. Il aura une fessée parce qu'il a désobéi. Donc, il est important de rappeler aux enfants quelques règles et de continuer à le garder. Un enfant, quand il est petit, il part à la découverte du monde. Il est intéressé partout, tout l'intéresse, tout le passionne, c'est formidable, cet univers dans lequel il est arrivé. Il va faire des bêtises, et il faut bien distinguer entre des bêtises que quelqu'un va faire parce qu'il découvre le monde, et puis une bêtise qu'il va faire parce qu'il a désobéi à papa et maman. Il faut parler des dangers, donner un avertissement quand on sait qu'il est ignorant. Et ça fait partie de son apprentissage. Et quand c'est par rébellion, parce que c'est interdit, on doit appliquer une sanction. Il y a des gens, on les voit dans les supermarchés, leur enfant, tais-toi, bam! Alors les gens qui passent dans les gondoles, et l'enfant, oh, c'est horrible. Les enfants, de n'importe quoi dans le magasin, la maman s'approche d'eux. Si tu continues, quand on sera à la maison, il va avoir une fessée, est-ce que c'est clair? Incroyable comment ils changent de conduite. Quand les enfants, quand on est avec eux, quand on leur explique le pourquoi du comment, quand on donne une règle, c'est important. Et puis, la grande chose qu'un enfant à bas âge doit apprendre, ça peut sauver la vie, c'est quand papa ou maman t'appelle. Quand j'étais petit, on habitait à côté d'une grande rue passante et il n'y avait pas, contrairement en France, il n'y avait pas de mur. C'était la pelouse, le trottoir et la rue. Avec des 38 tonnes et des voitures rapides. Comment faire? Vivre avec trois gamins en bas âge dans un tel endroit? Et nos parents nous ont dit, vous ne traversez pas le trottoir. Si vous traversez le trottoir, vous avez une fessée directe et pas de voiture ou pas. On a eu quelques fessées. Pour voir si ça tenait, quand même, la règle. on a vu que c'était comme une muraille en béton, cette reine. Donc on est resté de l'autre côté du trottoir. Et mon tout petit frère, ben lui, il avait peur. Alors un jour, mes parents m'ont envoyé pendant 15 jours chez Tata et Tonton. Et puis ils habitaient au fond d'une petite impasse. Et Tata avait l'habitude d'aller se promener dans l'impasse tous les jours. Alors elle a pris le petit André par la main. Et on va faire une promenade. Il arrive près du goudron de l'impasse et... il a peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? 15 jours après, mes parents reviennent pour le prendre. André est un garçon merveilleux, obéissant à toutes choses. Il a un seul truc. Quand on s'approche du goudron, il a peur, comme si maman avait expliqué pourquoi. Parce que chez nous, elle a compris, papa. Mais c'était quelque chose qui était entré dans son conscient, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pas du goudron. Mais chez nous, ça lui a sauvé la vie plusieurs fois. Et alors les parents disaient, quand on vous appelle, vous venez tout de suite. Vous connaissez un peu le jeu des numéros? Et beaucoup de parents m'en parlent. Quand je donne un ordre à mon enfant, je suis très strict. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Ah bon? Et comment c'est comme ça? Eh bien, moi je donne l'ordre et je dis 1, 2. Il ne bouge pas, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est bien 3. Hein? 2,5. 2¾. Et là, on commence à transpirer parce que l'enfant n'obéit pas. Surtout, il y a des adultes autour. J'ai l'air de quoi? Je n'arrive pas à maîtriser mes propres enfants. C'est quand ils sont petits qu'on peut vraiment leur enseigner. Et tout de suite, tout de suite. L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il dit obéissez. Parce que l'obéissance est la seule vraie règle de la discipline et de l'éducation. Obéissance aux autorités. Pas besoin de faire 36 000 règles. Je me sens que dans le bureau de mon père, le lundi matin, entre 9h30 et 11h30, et le samedi soir, entre 8h30, dormir. Donc, quel enfant va se souvenir de cette règle? La seule règle, c'est obéir à papa et maman. Mon père, parfois, après avoir donné la fessée, nous faisait une petite leçon spirituelle. On n'appréciait pas trop. Vous connaissez, ça m'a fait plus mal à moi qu'à toi? Ah ouais? On ne dit pas ah oui, hein? Mais enfin, on le pense. Mais il disait une chose importante, c'est si vous n'apprenez pas à nous obéir à nous, vos parents, vous n'obéissez pas à Dieu dans vos cœurs. Et les fessées du Seigneur sont autrement plus terribles que les nôtres. Enseigner son enfant l'obéissance. Libre. La vie épargnée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'un enfant et tout être humain a besoin de comprendre le principe de l'autorité. Dieu a tout basé sur l'autorité. Et quand on devient grand, et quand on a son propre appartement, qu'est-ce qu'on dit au début? On dit, je suis libre. Libre de papa et maman! C'est merveilleux, je suis libre! Essayez donc d'arriver une demi-heure en retard à votre travail pour voir si vous êtes vraiment libre. Dans mon bureau, c'est quoi? Demi-heure? Je suis libre, monsieur! Oui, vous êtes libre, vous n'avez plus de travail. Essayez donc d'être libre quand vous recevez la taxe foncière ou la taxe d'habitation. La taxe d'habitation va bientôt finir, mais bon, on en inventera d'autres, hein? J'ai pas payé dans le temps et j'avais pas le temps. Ah, j'avais pas le temps. 10% de majoration. Essayez donc d'être libre quand vous faites n'importe quoi sur la route. Et... on est libre nulle part, les amis. Dès que vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas libre. Et quand vous êtes chez vous, c'est votre femme qui est la patronne. Non, ça, c'était pas vrai. Mais de voir quelque chose de gentil pour les femmes, pour retrouver leur bonne faveur. Mais ce principe de soumission à l'autorité est tellement important. Parce que Dieu est l'autorité suprême. Et toutes les autorités dans notre vie, y compris les autorités civiles, ont été instituées de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous avons une nature rebelle. Et que laissé à nous-mêmes, ce serait n'importe quoi. Donc l'autorité est essentielle pour les êtres déchus que nous sommes. Et quand nous acceptons ces autorités, et que nous prions pour elles, et que nous les respectons, dès notre enfance, on va vivre une vie paisible. parce qu'on ne va pas sombrer dans la rébellion. Et donc l'enfant, il doit comprendre ça très rapidement. Quand un enfant, comment donner une fessée à un enfant? Il y a quelques règles. D'abord, pas de colère. Notre motivation est essentielle. L'enfant doit ressentir notre motivation. On ne veut pas donner la correction. On est obligé de le faire parce qu'il a désobéi. Il a désobéi, on l'amène dans un lieu à part. N'oublions pas que l'enfant, il a aussi une image de soi-même. Il a son amour propre. Si le patron doit vous reprendre, vous préférez que ça se passe dans son bureau entre vous et lui, plutôt que devant tous les collègues, n'est-ce pas? Et l'enfant, c'est la même chose, même tout petit, il a une image de soi qui est parfaitement en place dès son plus jeune âge. Alors lui crier dessus, donner la fessée, le montrer un exemple aux autres. Chez nous, je recevais mes fessées en présence, mes deux frères, mais ils en recevaient aussi. Donc, on était tous logés à la même enseigne. Mais l'enfant qui n'était pas digne, enfin, qui n'avait pas besoin de châtiment, on ne l'amenait pas dans la pièce avec ceux qui avaient besoin de châtiment. Pourquoi? Parce qu'il aurait gloussé, il aurait dit... Non, on l'a fait en dehors, hein. Quand il y avait un frère qui était dedans, on était dehors. On l'entendait crier, ça nous faisait une joie. Hein. Quand maman sortait du voyage, hop, vous en voulez aussi? Non. Mais elle avait dans un lieu à part. Lui expliquer d'abord qu'est-ce que papa et maman ont dit. Mais il ne fallait pas que je sois chez le voisin sans permission. Où est-ce que tu as été? Qui était chez le voisin sans permission? Qu'est-ce que papa dit qu'il ferait si tu allais chez le voisin sans permission? Il m'a dit que je n'aurais la fessée. Si je ne donne pas la fessée, oh, ça serait bien, papa. Oui, mais je t'aurais menti. Alors, il faut y passer par là. Tourne-toi pour en finir. On ne va pas rester des heures à parler de ça. J'ai connu un couple, le père, il voulait éduquer ses enfants. Alors il leur disait, viens avec moi, tu vas recevoir la fessée. Alors l'enfant, le gars, il était taillé comme ça déjà. Alors, il entrait, il les prenait sur les genoux et il parlait pendant une demi-heure. Il faisait la leçon sur les mots de désobéissance, sur l'ordre donné, sur l'image paternelle. Le gamin, tu sais qu'il n'avait qu'une seule chose en tête. Donne-moi vite cette fessée pour en finisse. Voilà, fessée, c'était rien du tout à côté de la douleur, de l'anticipation. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant ne peut pas se concentrer sur votre petite leçon avant la fessée. Parce qu'il est comme ça. Donc, grand finisse vite. Souvent avec nos filles, je disais, écoute, trois petites tapes, ça va être fini. Hein. Tu es prête? Oui, oui, pam, pam, pam. Ah, ça fait mal! On en avait une qui était vraiment... la douleur, c'était quelque chose pour elle. Et maman lui a donné une joie fessée. Mais maman, ça fait mal! Maman dit, ça fait bien. Mais... pourquoi cette douleur? Pourquoi la douleur? Pourquoi la fessée? C'est simple, c'est très simple. Le Seigneur nous enseigne que le péché fait mal. Le péché fait mal. Donc, ne péchez pas. Ah oui, mais j'ai envie de pécher. Et si je pêche et le péché ne me fait pas mal, mais je vais continuer. Mais je vais amplifier. Et c'est pour ça que, d'une manière tout à fait simple, quand l'enfant est petit et que son esprit est malléable, une petite correction, une petite douleur ponctuelle lui permet de comprendre chaque fois que je désobéis, mes parents me donnent une petite douleur. Ça ne dure pas longtemps, mais ça fait mal quand même pendant quelques instants. C'est la motivation de ne pas pécher. Et si un enfant peut apprendre... je ne veux pas pécher, je ne veux pas désobéir parce que je finirai par souffrir à l'avenir. Ce n'est pas parce qu'on est fâché contre l'enfant, bien au contraire. Quand on sait sur le péché, que les ravages que le péché a fait dans notre vie, ici, beaucoup ici, vous avez vécu toute une vie avant de connaître le Seigneur et vous vous souvenez avec émotion des ravages et des douleurs du péché. On ne voudrait pas que nos enfants fassent comme nous. Et c'est pour ça qu'on les aime et que une discipline est parfois importante. Je voudrais maintenant parler aux adolescents. Et j'aimerais pour cela qu'on lise un peu en Proverbe. Proverbe chapitre 30. Plutôt chapitre 31. Alors Lemuel, ici c'est Salomon, aîné de l'Éternel. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Dit que la mère de Salomon, allez, les rapides du concours de tout à l'heure, la mère de Salomon c'était qui?